Radio Prague, les informations.
La Commission européenne appelle à la solidarité face au visa canadien réintroduit à l'égard des ressortissants tchèques. Selon Reporters sans frontières, la liberté de la presse en République tchèque a connu une aggravation. Le vaccin contre la grippe porcine sera disponible pour plus de personnes que prévu. La Commission européenne va recommander aux pays membres de l'Union européenne d'établir une obligation de visa pour les diplomates canadiens se rendant dans les pays de l'Union européenne. Si le Canada n'entreprend pas d'ici la fin de l'année les démarches nécessaires en vue de faciliter le processus de délivrance des visas pour les ressortissants tchèques, c'est l'agence CTK qui en informe en se référant au texte d'un rapport de l'organe exécutif de la Commission publié ce mardi. Le rapport analyse la situation après la réintroduction unilatérale de l'obligation de visa par Ottawa en juillet dernier. La liberté de la presse en République tchèque a connu une aggravation au cours de l'année 2009, même si elle se maintient à niveau élevé comparé au reste du monde. C'est ce qui ressort du rapport annuel de Reporters sans frontières. Si en 2008, la Tchéquie occupait le 16e rang avec les Pays-Bas et la Lituanie, en 2009, elle est tombée à la 24e place du classement derrière la Jamaïque. Sans indiquer une raison concrète de cette chute, Reporters sans frontières critique notamment l'entrée en vigueur le 1er avril de la loi dite muselière interdisant de publier l'identité des victimes d'actes criminels graves et de citer les informations provenant d'écoutes téléphoniques policières. Un nombre plus élevé que prévu de personnes souffrant de maladies chroniques et de personnes exerçant des professions de grande utilité pour le fonctionnement de l'État pour être vacciné contre la grippe porcine. Une information de la ministre de la Santé, Dana Juraskova. La République tchèque a commandé à la société GlaxoSmithKline 1 million de doses de vaccins. À ce jour, un peu plus de 300 cas de grippe porcine avérés ont été diagnostiqués en République tchèque. C'est le musée des arts décoratifs de Prague que le ministre de la Culture Václav Riedlbauch a chargé de la gestion de la galerie Rudolfinum, administrée jusqu'à présent par la Philharmonie tchèque. La liaison des deux institutions contribuera, selon le ministre, à leur meilleur fonctionnement et à l'élimination des problèmes qui se posaient dans les relations entre deux institutions différentes cohabitant sous le même toit. Les dégâts causés par les chutes de neige ces derniers jours au nord de la Bohême sont évalués à 5 milliards de couronnes par la société d'électricité tchèque, la ČEZ. On évalue à 60 000 le nombre de ménages qui ont vu l'électricité coupée pendant plusieurs jours à l'échelle du pays. Un ciel nuageux et des températures entre 7 et 11 degrés sont prévus pour mercredi, jour de fête des Brigitta. C'était les informations avec Jirka Gisublova.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Prague. Tout de suite, les faits et événements du jour. Nous vous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, mais comme pour le traité de Lisbonne, la crise qui agite Czech Airlines, la compagnie aérienne tchèque, est un événement récurrent dans l'actualité tchèque. Nous commencerons donc cette émission par les changements opérés ce lundi au sein de la direction. On fera un tour par la colline de Vítkov à Prague, où le célèbre monument qui fut la nécropole des dirigeants communistes va bientôt rouvrir ses portes après restauration. Et puis le reste de ce programme sera consacré au cinéma avec un festival organisé par l'Institut culturel roumain à Prague. Bonne écoute à toutes et à tous. La compagnie aérienne publique tchèque ČSA ou Czech Airlines traverse une période parmi les plus mouvementées de son histoire. Officiellement, le gouvernement devrait décider la semaine prochaine de la suite à donner au processus de privatisation, mais les importants changements intervenus lundi à la tête de la compagnie laissent à penser que sa vente sera probablement annulée ou remise à plus tard. Plus de détails avec Guillaume Narguet.
Comme l'annoncent les médias tchèques, Česa est devenu lundi un cas unique au monde. Tout en conservant ses fonctions de directeur général de l'aéroport de Prague, lui aussi propriété de l'État, Miroslav Dvořák a en effet également été nommé à la présidence du conseil d'administration de la compagnie aérienne. Un autre changement est également intervenu à la tête du conseil de surveillance de Česa, qui sera désormais dirigé par l'économiste Miroslav Zamečník. À la sortie de la réunion, le désormais ex-président du conseil d'administration, Radomír Lašák, a expliqué les raisons de ce rapprochement entre l'aéroport de Prague et Česa.
Il ne s'agit nullement d'une mise en commun des actions. Cela ne signifie pas qu'une société va posséder des parts dans l'autre société. Ce rapprochement est avant tout une décision pragmatique. Il va permettre aux deux sociétés de réaliser d'importantes économies en augmentant certains revenus et en réduisant certaines dépenses.
La première grande mission pour le nouveau duo à la tête de Česa consistera donc à réaliser des économies devant permettre de surmonter la crise économique que traverse la compagnie, des pertes de près de 120 millions d'euros étant prévues pour cette année. La seconde sera de trouver un terrain d'entente avec les syndicats sur la baisse des salaires, et notamment ceux des pilotes. Sur ce point précis, Radomír Lašák a indiqué que ces derniers étaient d'accord sur le principe d'une diminution de 15% de leurs revenus, dont le montant moyen est légèrement supérieur à 8 000 euros, tandis que les salaires des hôtesses de l'air et des autres employés de la compagnie feraient l'objet de réductions respectives de 10 et 5%. Cet allègement de la masse salariale devrait permettre d'économiser environ 24 millions d'euros par an, des chiffres avec lesquels n'est toutefois pas d'accord le nouveau président du conseil d'administration, Miroslav Dvořák, qui estime que l'accord trouvé avec les syndicats reste très insuffisant.
Le conseil reste ferme sur sa volonté de parvenir à des réductions de salaire de 30% pour les pilotes et de 15% pour le reste du personnel. C'est la seule manière de faire les économies dont la compagnie a besoin. Le conseil et l'ensemble de la direction entendent donc continuer à mener les négociations de manière à ce qu'elles aboutissent aux modifications indispensables de la convention collective qui entrerait en vigueur le 1er novembre prochain.
Outre ces importantes réductions de salaire, toutefois inférieures aux 45% encore envisagées pour les pilotes la semaine dernière, le conseil de surveillance entend également licencier 860 des 4600 employés que compte actuellement Česa. Cette coupe d'effectifs permettrait une économie annuelle estimée à un peu plus de 43 millions d'euros. Reste seulement à savoir si toutes ces mesures pourront être appliquées. Le gouvernement ne s'étant pas encore prononcé sur la suite qu'il entend donner au processus de privatisation de la compagnie. Une décision devrait être rendue la semaine prochaine.
C'est un étrange bâtiment rectangulaire en béton, précédé d'une monumentale statue équestre qui domine une des nombreuses collines de Prague. Cet édifice, c'est l'ancien mausolée dédié au dernier repos des chefs d'État tchèques. Cette statue, c'est celle de Jan Žižka, le guerrier hussite devenu un des héros nationaux des Tchèques. Et l'ancien mausolée ouvre ses portes au public à partir de la fin octobre. Si à première vue et pour l'œil non averti, le monument sur la colline du quartier de Žižkov a l'air d'un édifice digne du style communiste, il n'en est rien, prévu à l'origine pour être un panthéon à la mémoire des légionnaires tchécoslovaques qui avaient combattu pour la Tchécoslovaquie pendant la Première Guerre mondiale. Le projet de construction a été lancé en 1928 sous la présidence de Tomáš Garrigue Masaryk et le gros des travaux achevé en 1932. L'aspect monumental du bâtiment répondait à ce qui semblait être un air du temps, que l'on pense au Palais de Chaillot à Paris, mais aussi aux imposantes bâtisses construites sous l'Allemagne nazie. Les communistes arrivés au pouvoir en 1948 y trouveront d'ailleurs leur compte, puisqu'ils feront du monument sur la colline de Vitkov un mausolée pour les dirigeants défunts. Après 1989, le monument sera le lieu de happenings, concerts ou événements culturels alternatifs, un premier pas pour réinventer l'identité de ce site marqué par l'histoire et l'idéologie. Aujourd'hui, c'est une institution qui a repris le flambeau et entend transformer le monument. Lancé en 2006 par le Musée national, les travaux de restauration du mausolée sont en train de s'achever et une exposition temporaire est prévue pour son ouverture fin octobre. Michal Lukáš est le directeur du Musée national.
L'exposition a été conçue dans un espace très atypique, dans l'espace de l'ancienne chambre funéraire et dans le lieu où la momie de Klement Gottwald était entretenue. Tout était en ruine dans ce bâtiment, rien ne fonctionnait, pas même l'électricité. Outre les réparations purement techniques, nous avons mené de difficiles travaux de restauration.
Le monument sera donc ouvert au public à partir de la fin octobre. Pour l'heure, il s'agit d'un projet pilote pendant lequel les visiteurs pourront découvrir cette exposition consacrée au grand tournant de l'histoire tchécoslovaque pendant le XXe siècle. Si le monument domine la ville, il est indissociable de l'immense statue équestre représentant le guerrier hussite Jan Žižka. Il l'est d'autant moins quand on observe les portes historiées du monument où se mêlent allègrement scènes de l'histoire hussite inscrites dans une fausse continuité historique avec l'avènement du régime communiste. En tout cas, la statue, elle, détient un record, celle d'être la plus grande statue équestre en bronze au monde. Elle détiendra sans doute bientôt un autre record, celui de la dépense la plus inappropriée en ces temps de crise, puisque sa restauration devrait coûter à l'État la bagatelle de 25 millions de couronnes, environ 1 million d'euros. Un projet qui fait grincer des dents à Prague, à l'heure des restrictions budgétaires dans tous les secteurs. New Waves, New Ways, c'est le nom d'un nouveau festival de cinéma qui se tient toute la semaine dans les locaux de l'Institut culturel roumain de Prague. Plusieurs projections par jour permettent de faire découvrir au public tchèque des films issus des pays récemment entrés dans l'Union européenne ou de ceux qui sont appelés à entrer prochainement. Mircea Danduta est le directeur de l'Institut et il présente au micro d'Anne-Claire Veluire cette première édition du festival.
L'idée du festival, c'est de réunir des cinématographies nationales, des pays qui ont accédé à l'Union européenne il y a pas longtemps, ou bien elles sont en cours dans le processus d'être reçues. Indifféremment d'avoir déjà été admis dans l'Union européenne ou dans les structures européennes, dans l'OTAN, etc., ou bien d'être sur la voie vers ces structures-là, on appartient à l'Europe, nos cultures, en ce cas là, nos cinémas appartiennent à la culture européenne et nous espérons bien que ce festival-là va prouver tout ça.
Est-ce que vous pouvez me dire concrètement quels sont les pays qui sont concernés?
J'essaie de le dire en ordre alphabétique. Donc c'est l'Albanie, c'est la Bulgarie, pardon, la Bosnie, et puis la Bulgarie pour respecter l'alphabet. C'est la Croatie, c'est l'Estonie, la Lettonie, la Roumanie, la Serbie et la Slovénie. Le nom du festival, New Waves, New Ways, s'est inspiré du fait que dans tous ces pays-là, il y avait pendant les dernières années des mouvements de cinéma, des nouvelles vagues, des New Waves, qui ont apporté dans le premier plan des cinéastes très valeureux, en majorité des cinéastes jeunes, qui viennent avec des modalités d'expression nouvelles, originelles, intéressantes, donc avec des new ways, si vous voulez. Et d'un autre côté, ça contient aussi une côté symbolique, parce que new waves, l'adhérence à l'Union européenne, on a eu aussi des vagues de recueil à l'Union européenne, et finalement, chaque de nos pays a trouvé ou bien doit encore trouver une modalité spécifique de se rapprocher de l'Europe, donc a new way.
On va revenir sur cette idée de nouvelle vague des cinémas des pays en Roumanie, en Bulgarie, etc. Mais j'aimerais que vous me présentiez un petit peu concrètement ce qu'on peut voir pendant cette semaine ici. Je crois que la plupart des projections auront lieu ici à l'Institut roumain.
Toutes les projections auront lieu ici à l'Institut culturel roumain. L'entrée est libre parce que on est très intéressé qu'on connaisse nos cultures, qu'il n'y ait pas de barrières pour ceux qui en sont intéressés. Alors, qu'est-ce que je peux recommander? Il y a plus que 40 de projections pendant une semaine. Ici, il y a des jours dont on a 6 ou bien 8 projections par jour. Si je recommande un film, c'est un peu injuste pour un autre film, mais permettez-moi de recommander au moins les films auxquels nous avons aussi des réalisateurs ou des acteurs qui en participent. On a aussi des guests, des hôtes importants.
L'offre de films est donc très riche, qu'il s'agisse de courts-métrages, de documentaires ou de films de fiction. Beaucoup d'invités seront présents pour présenter leurs films. À noter que le festival se termine dimanche avec une coproduction tchéco-albanaise, Le deuil de Madame Schneiderova, en présence de l'actrice Anna Geislerova. Retrouvez Mircea Danduta, le directeur de l'Institut roumain, à Prague, dans quelques instants dans Panorama. Juste un mot et surtout un peu de musique avant de passer à la suite du programme. La Tchèque Markéta Eriglova et l'Irlandais Glenn Hansard, réunis dans la formation The Swell Season, viennent d'annoncer qu'ils allaient sortir un nouvel album à la fin du mois. Ce duo a remporté un Oscar et vendu 800 000 disques de la bande originale du film Once. Premier concert prévu à Prague le 1er février. Les billets qui vont sûrement partir vite seront en vente à partir de vendredi. En attendant, et pour finir ces faits et événements, et avant de passer à la rubrique Panorama, petit extrait de la chanson oscarisée Falling Slowly.
Panorama.
Panorama.
République tchèque.
Comme promis, maintenant, on écoute la suite de l'entretien réalisé par un clairvoyant avec Mircea Dan Duta, directeur de l'Institut culturel roumain à Prague, qui organise cette semaine la première édition d'un festival où sont présentés des films issus des pays des Balkans et des pays baltiques. Mircea Dan Duta est aussi critique de cinéma. Il explique la vitalité du cinéma dans ces jeunes démocraties et apporte son regard sur le cinéma tchèque.
Vous avez mentionné cette idée de nouvelle vague cinématographique dans certains pays. Il est vrai qu'on connaît, par exemple, pour le cas roumain, on a vu dernièrement des films qui sont sortis à l'échelle internationale, qui ont reçu des prix, comme la Palme d'Or du Festival de Cannes pour le film 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Est-ce que vous avez des éléments d'explication? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, comment ces pays, la Roumanie, je pense aussi un peu à la Hongrie, même si elle ne fait pas partie de votre festival, réussissent à avoir cette nouvelle génération de réalisateurs, de cinéastes qui sont très prolifiques et très novateurs?
On aura besoin de 2 semaines pour expliquer tout ça. Mais, par exemple, au cas de la Roumanie, ça, c'est un échange d'une génération qui est intervenue pendant les années 90, après la révolution anticommuniste. Le cinéma roumain a connu un vrai marasme parce que c'était encore la lutte entre des générations, des réalisateurs exceptionnels qui avaient fait des films d'opposition anticommuniste pendant le régime socialiste, ont monopolisé la scène et aussi les moyens financiers de l'État pour faire leur projet, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi de s'adapter aux réalités de l'économie du marché libre c'est pour ça que la cinématographie roumaine était à un pas de la mort. On a eu seulement un film en 98. On n'a pas eu de film du tout en 99, mais jusqu'à la fin, en 2000, on avait déjà eu 8 films en 2001, 12 films en 2002, 20 films. Donc c'était un peu un miracle, mais seulement un miracle apparent. Tout simplement, c'est la nouvelle génération des réalisateurs qui a réussi de pénétrer l'espace, de venir en face et d'imposer un style de production beaucoup plus adapté aux réalités contemporaines de la Roumanie, et surtout du point de vue mental, si vous le voulez, du point de vue mentalité. C'est une génération des réalisateurs qui n'ont plus le besoin, qui ne sentent plus le besoin de se faire revancher avec l'époque communiste, parce qu'ils étaient trop jeunes pour pouvoir avoir dit quelque chose pendant cette... Tout simplement, ils ont été élevés pendant cette période-là, et c'est à cette période qu'ils appartiennent. Ils n'ont plus des passions subjectives à propos de l'époque passée. C'est ça, là, c'est la situation de la Roumanie. Les cinémas des Balkans, par exemple, ont été marqués d'une façon dramatique des guerres civiles, des guerres qui ont eu lieu dans cette zone-là pendant les années 80. Et ça a été une catalyse dramatique pour les réalisateurs qui se sont inspirés, je répète, d'une façon dramatique de cette réalité tragique, violente des guerres. N'oublions pas que c'est aussi que la majorité des pays de cette zone-là, des Balkans, et aussi dans la région baltique aussi, ce sont des États jeunes. Un État jeune, ça veut dire une réalité jeune qui stimule une pensée novatrice, une manière originale de penser et ou bien de repenser, de redéfinir l'art. Dans ce cas-là, l'art cinématographique. Donc, une réalité nouvelle inspire toujours pour une nouvelle vague, pour une nouvelle modalité d'expression.
Vous avez évoqué un film, une coproduction albano-tchèque. Le cinéma tchèque, justement, en comparaison avec le cinéma roumain ou d'autres pays plus récemment entré dans l'Union européenne, semble un petit peu endormi, même s'il y a un certain nombre de bons films. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne source d'inspiration pour le cinéma tchèque, d'aller voir un petit peu ce qui se passe aussi à côté de chez eux, chez leurs voisins? Et est-ce que vous savez s'il y a d'autres coproductions qui sont aménagées comme ça entre les productions tchèques et des productions roumaines, albanaises, etc.?
Je dois vous dire tout d'abord que moi-même, je suis un filmologue, je suis un critique de film à la base, et que, bien sûr, c'est une opinion personnelle, et que même je suis très enthousiaste de ce qui se passe dans les cinémas que j'ai déjà mentionnés, donc les cinémas balkaniques et les cinémas baltiques, je ne serais pas si critique à côté du cinéma tchèque, je ne le considère pas du tout endormi. Le cinéma tchèque contemporain est très dynamique, est très intéressant. Seulement, je crois qu'il cherche un peu sa voie. Il cherche un peu une manière artistique propre, quelque chose qui pourrait le projeter dans l'univers international. Les films tchèques d'aujourd'hui sont très professionnels. Les réalisateurs tchèques, et surtout les réalisateurs tchèques jeunes, ont appris quelque chose que les réalisateurs des pays ex-socialistes ne connaissaient presque du tout. Ils ont appris à dire des stories, à dire des histoires, à raconter avec les moyens de la cinématographie. C'est ça que le cinéma tchèque a appris pendant la dernière décade. Et si vous allez voir quelques films tchèques vous voulez, même s'il n'est pas le meilleur film, même s'il ne contient pas, je ne sais pas, des métaphores, des symboles, je ne sais pas quoi, mais quand même, tous les films tchèques, ou presque tous les films tchèques, disent des histoires d'une façon très professionnelle, d'une façon claire, un peu à la Hollywood, et je le dis comme un compliment, je le dis comme un élément positif, ce n'est pas un reproche, au contraire. Donc, tout simplement, le cinéma tchèque se cherche aujourd'hui. Les films tchèques sont très intéressants et ils sont un peu hermétiques. Encore une fois, c'est pas un reproche, c'est une constatation. Ce sont des films tchèques faits pour les Tchèques, peut-être pour les Slovaques aussi qui connaissent les réalités pareilles. Peut-être les films tchèques sont un peu moins compréhensibles pour les étrangers si on compare avec la période d'or de la nouvelle vague tchécoslovaque ou tchèque et slovaque des années 60 quand on a produit des films très tchèques ou très slovaques, mais aussi très universels, compréhensibles par le public universel. Par rapport à cette époque-là, je répète, les films tchèques d'aujourd'hui, même si très professionnels, sont faits un peu pour l'intérieur. Alors, c'est en cause de ça qu'ils n'ont pas le succès qu'ils le méritent pendant le festival international. Je crois que tout simplement, elles sont un peu moins comprises que le mérite, et c'est dommage.
C'est la fin des émissions en langue française de Radio Prague. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.